Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle François Allais et depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone. C'est François Allais, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, retrouvez un épisode que j'ai beaucoup apprécié début 2020. J'avais reçu Jean de La Roche-Brochard, probablement l'un des investisseurs français les plus réputés. Il gère Kima Ventures, le fonds d'investissement de Xavier Niel, le business angel le plus actif du monde. Au moment de l'épisode, il sortait son livre Human Machine pour toujours vouloir devenir la meilleure version de soi-même. Je vous laisse avec cette rediffusion. Très belle semaine et à mercredi prochain.
La première question que j'aime poser, c'est... Que faisaient tes parents?
Tiens, c'est une bonne question. Mon père, il avait commencé dans l'informatique chez Texas. Et après, il était directeur marketing d'une boîte qui s'appelait Excel Vision, qui a été un peu le précurseur, un des précurseurs des PC en France, qui s'est évidemment tué par les Américains, mais aussi par, à l'époque, Thomson, qui en fait n'aimait pas trop la concurrence et avait fait tout ce qu'il fallait pour que Excel Vision n'existe pas. C'est dommage, c'était une belle aventure. Et puis après, le divorce de mes parents, c'était quoi, en 91-92, avec sa nouvelle femme, ils ont monté un restaurant en 95, qui existe toujours, qui s'appelle Le Vieux Paris d'Arcole, en face de Notre-Dame. Donc il y a quelques petits problèmes avec Notre-Dame, parce qu'il y a beaucoup moins de monde dans les parages.
Oui, c'est sûr.
C'est aussi un passionné de course hippique, et donc il a quelques chevaux de course qu'il suit avec beaucoup de passion. Et ma mère, elle a toujours travaillé dans la culture, d'abord à la Cité des sciences et de l'industrie, depuis la création où elle a enchaîné les postes de directrice de département sur plein de choses, puis à la RMN, Réunion des musées nationaux, voilà, qui gère une grande partie des musées francophones.
Très bien.
Voilà.
Ok. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est le Jean de La Roche-Brochard ado. Comment il était ?
Le Jean de La Roche-Brochard ado. Alors j'avais quand même du bol. J'avais pas de bouton ado. Ouais. Ça, c'était sympa. Et je t'avoue que je plaignais vachement les copains qui en avaient quand même beaucoup. Ça devrait être assez chiant. Ils avaient une espèce de crème dont j'ai oublié le nom, mais qui était très connue, qui mettait tous. Insupportable.
Okay.
Ado, introverti, pas très très à l'aise. Pas très très à l'aise. Voilà, je laissais passer les années telles qu'elles venaient. Et puis, voilà, j'en ai pas un grand souvenir, hein, honnêtement.
Ok, très bien.
Ouais.
Et ensuite, t'as fait l'université ? Tu étudiais quoi à l'université ?
Bah, en fait, j'ai redoublé ma seconde, j'ai eu mon bac à l'oral avec 26 points de retard. Après, je ne savais pas quoi faire. Je suis allé à l'université, faire de l'éco-gestion comme tout le monde.
Ouais.
J'ai eu un peu plus de bol que les autres. J'ai passé RICRAC avec 10 de moyenne en deuxième année, puis en troisième année, puis j'ai redoublé. Puis j'ai fait la quatrième année, puis j'ai fait un master de management stratégique international pendant quelques mois. Et puis ensuite, j'ai commencé mes premiers stages.
Très bien. Et justement, comment tu es arrivé dans le venture capital ?
Dans l'univers du VC, en fait, de manière générale, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est tous à la recherche on a besoin de trouver ce dans quoi on est bon. Parce que historiquement, nos parents nous disaient toujours « Ah, tu verras, mon chéri, tu seras bon dans ce que t'aimes ». Alors qu'en fait, on aime plutôt ce dans quoi on est bon. Parce que moi, par exemple, j'adore dessiner, mais je suis nul. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, on est tous à la recherche de ce qu'on sait faire bien. Donc, moi, à la fin de mes études, comme j'avais fait quelques petits projets à droite à gauche, je savais que j'étais efficace, je savais que c'était synthétique. Je savais que j'avais aussi que j'aimais beaucoup le contexte switch. J'ai besoin de changer d'activité et de zones d'intérêt très régulièrement. Et donc, j'ai commencé à faire des introductions en bourse sur ce marché small cap français grâce à un stage dans une boîte qui s'appelait Avenir Finance.
Ouais.
Puis après, comme le marché s'est arrêté, c'était en 2008, au moment de la chute de Lehman Brothers et des subprimes, on a commencé à faire de la levée de fonds. Je me suis rendu compte que pour faire des présentations en levée de fonds, je n'étais pas trop mauvais, que dans le cadre de la vente, même si j'aime pas passer des cold calls à des gens pour leur proposer des deals, bah, j'étais pas trop mauvais non plus. Et donc j'ai continué à faire ça. Et puis après, je suis passé de leveur de fond à The Family.
Ouais.
Et c'est notamment venu du fait que je trouvais ça dingue que les investisseurs aient un job aussi incroyable et que malheureusement, pas une majorité, mais quand même un grand nombre se rendent pas compte de la chance et de l'opportunité qu'ils ont, ils le font moyennement.
Mmh.
Donc je m'étais dit, ah, j'aimerais bien faire ce métier-là. Malheureusement, quand vous êtes leveur de fonds, personne ne veut de vous. Donc j'ai pas réussi à faire le saut de lever de fonds à investisseur, mais par contre de lever de fonds à The Family qui m'a donné ma chance, et grâce à The Family,
oui,
j'ai fait la connaissance de Xavier et je suis rentré chez Kima Ventures. Et finalement, j'ai eu encore plus de chance qu'à l'origine parce que j'ai pas eu seulement le job d'investisseur que je souhaitais, j'ai eu le meilleur job d'investisseur qu'on peut rêver, quoi. Et donc okay. Ça, c'était assez dingue.
Et pour revenir à la période The Family, tu y es resté 2 ans.
Ouais, 2 ans, septembre 2013, septembre 2015 pour être exact.
Ok. Tu y faisais quoi justement?
C'était le démarrage. The Family en septembre 2013, oui. Ça avait 6 mois. C'était la première levée de fonds d'Algolia. Et on avait plein de choses à faire et à prouver et à développer. Je me suis beaucoup occupé de 2 choses en particulier. Le sourcing de boîtes et l'accompagnement de certaines boîtes dans leurs opérations de levée de fonds. Parce que c'est ça que je savais faire.
Mmh.
Et j'ai fait ça pendant 2 ans.
Ok. Et pour revenir un peu avant The Family, je sais que tu as créé plusieurs boîtes, il me semble. Une première, peut-être, c'était justement liée à l'investissement. Et une autre, c'était plus un format startup.
J'ai fait des petits projets. Ouais. En fait, la toute première boîte que j'ai créée, en fait, c'était pas une boîte, c'était un jeu de société quand j'avais 12 ans. qui s'appelait... Non. Le tout premier truc que j'ai créé, c'était un journal satirique en 6e à Janson de Sailly qui m'a valu de me faire virer 3 jours.
Ah ouais.
Que je vendais 3 euros dans la cour et que je faisais imprimer sur l'imprimante de mon père dans son restaurant. Donc ça, je m'en souviens bien. Ensuite, j'ai créé un jeu de société qui s'appelait Quest, qui est une espèce de... Il y a un jeu qui était connu à cette époque qui s'appelait Command & Conquer. Et donc, Command & Conquer, c'était ouf. Et en fait, je m'étais dit, ah, il faudrait transposer ça sur un jeu de société. Donc, j'avais créé cette espèce de jeu de société qui s'appelait Quest. Et donc, bref.
Premier projet, quoi.
Ouais, premier projet. Et en fait, je m'étais inscrit pour le concours international de jeux de société qui est à Boulogne-Billancourt.
Ah ouais.
Et la veille de rendre mon dossier, l'ordinateur de mon beau-père qui m'avait prêté pour faire les règles avait planté. Et déprimé, j'ai lâché l'affaire, quoi. Putain, je m'étais arraché quoi sur ce okay. truc-là. C'était assez marrant. Après, j'ai fait une association à la Sorbonne pour aider les étudiants sur des forums et tout. C'était basé sur un vieux truc qui s'appelait PHP Nuke,
okay.
qui était une espèce de CMS sur PHP incroyable avec une tonne de plugins et tout. C'était assez dingue. Et je créais des sites internet pour des gens et je faisais aussi des campagnes AdWords au moment où AdWords commençait en 2004 en France. C'était assez dingue parce que tu payais des mots-clés, mais une misère. Donc, genre, restaurant Paris en 2004 sur Google, ça coûtait 5 cents le clic.
Okay.
Et ça générait un nombre de réservations, mais laisse tomber quoi.
C'était le tout début un peu d'internet.
C'était la folie. Tout américain qui débarquait en France allait sur Google, tapait restaurant Paris, premier qui tombait, c'était le restaurant de mon père. Okay. C'est cartonné. Donc ça a très très bien marché, c'était marrant. Après j'ai fait de la location sous location d'appart Airbnb et dans le même temps je faisais l'annuaire des anciens de la Sorbonne pour leur vendre des produits de défiscalisation. ça marchait moyen, puis j'aimais pas trop faire du cold call, mais okay. j'essayais un peu quand même. Et puis histoire d'être un peu rigoureux, j'avais postulé et je bossais en fait à l'accueil de la Société Générale au coin de Boulevard Saint-Michel et de la rue des Écoles tous les samedis pendant 1 an. Et ça, je dois avouer que c'était assez violent, le réveil du samedi matin pour aller bosser à la Société Générale à l'accueil où j'étais payé, 140, 150 euros plus les tickets resto quoi, par mois. Voilà. Mais bon, c'était un bon exercice de résilience, quelque chose que je n'avais pas beaucoup développé.
Ok.
Et après, et en 2012, ouais. parce que c'est ça le truc aussi, et en 2012, j'ai créé un jeu sur mobile qui s'appelait Hangpic, H-A-N-G-P-I-C. Et là, c'était comme il y avait un jeu à l'époque qui marchait, il y avait 2 jeux qui avaient cartonné. Le premier, c'était Draw Something,
oui.
qui était un Pictionary asynchrone.
Je me rappelle.
Donc tu dessinais, t'envoyais le dessin, les gens te voyaient dessiner. Mais en fait, c'était une reconstitution de ce que tu étais en train de faire. Et en fait, les gens avaient l'impression de jouer en live, alors qu'en fait, c'était asynchrone, c'était dingue. Et il y avait au même moment Song Pop, qui était un quiz musical, asynchrone aussi. Et je m'étais dit, bah, faut faire pareil sur d'autres catégories. Et j'avais créé un jeu avec deux autres personnes, qui était un jeu asynchrone sur les images. Donc, on avait des catégories monuments, personnes célèbres, animaux, et en fait des gens jouaient comme ça sur un quiz asynchrone sur les images. Okay. Ça n'a pas très bien marché, mais c'était une bonne expérience.
Donc t'étais pas mal dans les jeux quand même.
J'étais pas mal dans les jeux.
Le jeu de société.
Ouais, je pense que c'est un fantasme de créativité chez moi qui est malheureusement, un, n'a pas été assez assouvi, et deux, sur lequel j'avais pas de talent prédestiné.
Ok, donc une mini carrière d'entrepreneur quand même, avant de.
Ouais, vite fait.
Avant de se concentrer sur...
Faut le dire vite. C'est pas quelque chose dont je fais la pub.
Ouais. Et du coup, on arrive... on fait un saut dans le temps et on arrive à Kim Adventures.
Yes.
Ma première question, ça va être... peux-tu nous parler de ta première rencontre avec Xavier Niel ?
Ouais, bien sûr. Donc, Xavier, je lui ai envoyé Capitaine Train. Un dossier qu'il a regardé, dans lequel il a décidé d'investir. Et puis, un jour, je lui ai envoyé un autre dossier qui s'appelait We Do Gift. Qui est une boîte qui en fait dématérialise les chèques cadeaux, qui marche très bien, qui existe toujours. Hein, j'ai eu le fondateur au téléphone la semaine dernière. Mmh. Et au moment de l'envoi de We Do Gift, Jérémy Bérébi qui s'occupait de Kima était en train de partir. Et Xavier m'a dit quand est-ce que tu passes me voir ? Et donc on a organisé un rendez-vous. On a dû se voir en février-mars, c'est au moment des vacances de février. Et on a discuté 2 heures à bâton rompu tranquillement dans son bureau chez Iliad dans l'8e. Et voilà, et on a parlé de tout et de rien, de The Family, de start-up, de plein de trucs. Et à la fin de notre rendez-vous, je lui ai dit, et du coup, Kima, qu'est-ce qui se passe vu que... Il m'a dit, c'est-à-dire, je lui ai dit, bah, je sais pas, Jérémy s'en va, est-ce que tu vas le remplacer? Et il m'a dit hyper naturellement, oh, tu sais, Kima, Jérémy avait recruté 2 analystes, ils font très bien le job, on n'a besoin de personne. Et voilà, j'étais un peu dégoûté, j'avoue.
Ouais.
Et en fait, 15 jours après, la personne qui était en charge de son holding à ce moment-là m'a appelé pour me demander si ça m'intéressait de les rejoindre. Et donc, le temps que tout ça s'organise, c'était 1er septembre 2015.
Quand tu reçois le call, t'es dans quel état d'esprit Serein, enfin,
bah, donc la manière dont j'aborde toute opportunité, quelle qu'elle soit, et c'est le cas aussi avec les deals, c'est toujours avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'optimisme et d'envie que ça se fasse, parce que si t'as pas une envie profonde que les choses se fassent, bah, faut pas espérer qu'elles se fassent, quoi. Mais toujours avec le détachement nécessaire pour que si ça tombe à l'eau. Ouais. Tu rebondisses très vite. Et ça, c'est une règle qui m'a été apprise par le père d'un copain qui est avocat et qui m'a dit, j'ai un de mes clients, ça fait 10 ans que je bosse avec lui, alors que tous les autres cabinets d'avocats, il est parti au bout de 2. Et je lui ai dit, ah, tu dois être super fort. Et il m'a dit, je ne suis pas plus fort que les autres, mais par contre, j'ai un détachement qui fait que je ne me suis jamais mis en confort par rapport à ce client-là. Et il sait que si je pars, je m'en remets très vite. Et que s'il part, je m'en remets très vite aussi. Et en fait, c'est important d'avoir cette dualité entre l'attachement que tu as aux choses qui comptent pour toi et aussi pas le détachement complet, mais la capacité de rebondir si par hasard elle s'écroule. C'est évidemment beaucoup plus difficile pour les choses personnelles et sensibles. Mais dans le cadre du boulot, c'est important. Et quand tu bosses avec un mec comme Xavier... qui est un personnage qui aime le risque, qui a les moyens de prendre les risques qu'il a envie de prendre et qui fait confiance aux gens, et bah, il faut surtout pas te mettre en position de confort, il faut toujours te remettre en question, il faut être hyper loyal parce qu'il faut être loyal envers les gens avec qui tu vois, t'aimes échanger avec lesquels t'aimes être, et en même temps garder le détachement nécessaire pour garder les idées claires, quoi.
C'est clair. Et est-ce que tu peux nous dire du coup ce que tu fais chez Kima Ventures et puis voilà.
Chez Kima, le job il est divisé en 3. Il y a un job de sourcing de deals. Donc nous on voit passer 200 à 250 deals par semaine en chiffres. On voit une 30aine de boîtes, je pense, toute l'équipe, toute la semaine. On est 3. Avec Alexis et Jeanne. et on fait un deal tous les 3 jours sur un montant moyen de 150 000 euros. Okay. Donc cette première partie sourcing, deuxième partie qui est une partie rencontre des entrepreneurs qu'on source ou qui viennent à nous. Et troisième partie qui est la partie accompagnement. Alors accompagnement chez Kima, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il ne faut quand même pas se mentir, on a 800 startups dans le portefeuille, on est une petite équipe de 3 et ouais. Donc je ne pense pas qu'on a le luxe d'être proactif vis-à-vis des boîtes qu'on supporte. En revanche, on est réactif. Donc dès qu'elle nous, si elle nous contacte de manière régulière avec des informations précises, rigoureuses sur la manière dont elles exécutent, on est capable rapidement de leur dire si on peut les accompagner ou pas sur certains points qui sont importants pour eux. Et nous, notre job, c'est vraiment de maximiser notre impact à la minute. Et je pense que la beauté d'avoir un portefeuille de 800 boîtes, c'est que en fait, tu acquiers de la connaissance et des automatismes qui te permettent d'être 2, 3, 4, 5 fois plus efficace que n'importe quel autre investisseur entre guillemets classique. Mmh. Et c'est pas parce qu'on est meilleur, c'est juste parce qu'on est mieux nourri par le marché, par des informations qui nous rendent, qui nous permettent de gagner en clairvoyance, en pertinence sur la vue d'ensemble de ce qui se passe. Et donc voilà, donc sourcing, rencontre et closing des deals et accompagnement du portefeuille.
Ok. Et en termes de stats, est-ce que tu as quelques chiffres combien de projets financés depuis ton arrivée, par exemple, ou depuis le début de Kima Ventures?
Depuis le début, Kima, c'est 800 startups financées.
Ok.
C'est un peu plus de 100 millions d'euros déployés. Qu'est-ce que je peux dire?
Et Kima, ça a été créé en quelle année?
2010.
2010, ok.
2010, fin 2010. Ans, ouais. En 10 ans. À peu près 10 ans, ouais.
Ok.
C'est une structure qui commence à s'auto-alimenter en fait, hein, sur ouais. Lequel les retours sur investissement nous permettent de financer une partie du portefeuille. Mmh. L'année dernière, on a eu pour plus de 30 millions d'exits, ça nous finance 2 ans d'activité. Cette année, je ne sais pas combien on en aura, mais j'espère qu'on en aura 4, 5, 6, 10 millions d'euros pour au moins se dire que juste les sorties de l'année 2020 financent au moins 2/3 de l'activité. Et en fait, c'est un modèle qui marche. Quand tu fais 800 startups, si tu arrives à être un index plus du marché, c'est-à-dire que plus tu vois de deals, plus tu fais de bons deals. Enfin, en gros, la moyenne d'un marché donné, elle est plutôt nivelée par le bas. Et toi, ton job, c'est d'aller récupérer la crème de la crème pour avoir des niveaux de performance qui sont au-dessus de la moyenne, quoi,
ouais. Hein,
bien au-dessus même. Donc nous, on essaye de faire entre 2 et 3 fois la mise sur un horizon 10 ans avec Kima. Et historiquement, ça a plutôt fonctionné. Alors il faut qu'on voit comment le marché évolue et si ça va tenir avec le temps. Mais on a, je sais pas si on a de la chance, mais en tout cas, ça fonctionne.
Ok. Et c'est quoi l'objectif de Xavier Niel avec Kima Ventures?
Bah, d'abord, Xavier, il fait pas les choses, il fait les choses pour gagner. Hein, donc, je pense que c'est une, enfin, tu vois, c'est une
c'est
manière.
Un mindset,
ouais, c'est un mindset. C'est assez génial. Donc, Kima, c'était, en fait, qu'est-ce que tu peux faire dans l'investissement dans lequel tu seras le meilleur? Kima, pour lui, c'était l'opportunité d'être le plus grand business angel du monde. Tu vois ce qu'il a réalisé. Et en plus, en faisant ça, la difficulté que tu as quand tu es dans une activité comme Iliad, comme Free dans les telcos, c'est assez traditionnel en fait. Hein. En même temps, ça crache. Hein. Iliad, ça fait 2 milliards d'EBITDA, c'est la guerre. Mais il faut que tu fasses attention de, entre guillemets, pas devenir obsolète avec le temps qui passe. Je pense d'ailleurs que c'est une mission auquel il faut qu'on soit tous sensibles. Et Kima, c'est extraordinaire pour ça. Tu vois tellement de boîtes tout le temps, de projets, etc. Tu vois les trends, même si c'est pas ton quotidien, mais si tu vois juste passer les deals. Ça te donne une capacité à voir ce qui se passe autour de toi dans le monde et tout, des startups, des nouvelles technologies, du futur qui est en train d'arriver, qui est assez dingue. Et donc bon, au-delà de gagner, donc d'être le plus grand business angel du monde, ça apporte une richesse intellectuelle dingue. Et puis trois, c'est bête hein, mais il faut faire les choses parce qu'elles te font kiffer, tu vois. Et c'est kiffant de financer 100 nouveaux entrepreneurs par an qui ont envie de changer le monde. Enfin tu vois, qu'est-ce que tu veux faire de plus sympa, quoi.
C'est clair.
Donc voilà.
Et est-ce que tu sais l'origine du nom Kima Ventures?
Je l'ai pas. Ce que je peux dire, c'est Kima en hébreu, ça veut dire. Alors désolé, j'ai le mot en anglais sustainable, ouais. Responsable.
Oui, c'est ça.
Ouais, si on peut dire. Et donc, ça vient probablement de là. Il faut redemander. En fait, à l'époque, je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression que... J'ai cru avoir entendu une interview de Jérémy qui avait dit qu'il avait créé Kima et que Kima, c'était une araignée avec des spécificités particulières. Okay. Et en même temps, nous, on a financé une boîte chez Kima qui s'appelle Kimaï. Et les deux filles qui ont lancé ça, à un moment donné, je leur dis, mais donc Kimaï, ça vient d'où ? Elles disent, bon, on voulait prendre Kima parce que ça veut dire sustainable. Et nous, on fait des diamants en laboratoire, donc justement sustainable. Mais Kima, c'était déjà pris par vous, donc on a fait Kimaï. Et je pense que sustainable est une très belle définition pour le nom. Quoi.
Carrément.
Voilà.
Et par rapport aux levées de fonds, donc on en a terminé pour Kima Ventures. Levées de fonds, quels sont les facteurs qui font que tu as envie d'investir dans une boîte ?
C'est assez simple, hein. C'est toujours donc il y a deux éléments critiques initiaux et un enfin il y a deux éléments c'est sûr initiaux et après il y a un élément critique qui vient a posteriori. Les éléments initiaux c'est est-ce qu'on pense qu'il y a une opportunité de marché ou est-ce que cette opportunité de marché nous excite, c'est important. Et deux et puis enfin est-ce qu'il y a de la place, donc est-ce que c'est une bonne opportunité, est-ce qu'elle nous excite, est-ce qu'il y a de la place, premier élément sur le marché. Deuxième élément c'est l'équipe. Et l'équipe, est-ce qu'on a des gens qui sont aussi clairvoyants, qui sont optimistes ? La dualité est importante parce qu'il faut être optimiste pour être entrepreneur. Le problème de l'optimisme, c'est que ça crée des filtres. Et donc, ça brouille ta vision claire des choses. Donc, il faut rester clairvoyant face aux challenges qu'on a. Est-ce que c'est des entrepreneurs qui apprennent de ce qui se fait de mieux, mais qui en même temps sachent faire des choix singuliers qui deviendront peut-être un jour des standards sur leur marché ? Ça, c'est important. Et trois, est-ce qu'ils exécutent avec autant d'excellence que de vélocité ? Les deux étant très difficiles à faire à la fois. C'est les deux éléments initiaux. Et après, une fois qu'on a investi, c'est tout bête, hein, mais la difficulté quand tu progresses dans une boîte, c'est de continuer de garantir la qualité de ce que tu exécutes. Mmh. Quand tu es responsable tout seul de ce que tu fais au quotidien, c'est toi le responsable de la qualité. Mais à mesure que tu grandis, il faut que tu embauches les bonnes personnes, que tu mettes en place la bonne organisation et que tu t'assures que... rien que tes équipes elles opèrent avec le même niveau de qualité que celui auquel tu t'étais astreint quand tu avais commencé, quoi. Et c'est très difficile, on a beaucoup de boîtes qui je pense en fait le voient pas, mais à mesure qu'elles se développent et qu'elles grandissent perdent en qualité et en fait les quelques éléments détracteurs du début on le voit pas mais tout d'un coup deviennent de plus en plus importants. Et après, le temps qu'on doit passer à nettoyer cette dette, tu vois, technique, produit, d'exécution, etc., c'est affreux, quoi. Ça ralentit beaucoup les organisations, c'est dur. Okay.
Et quand tu rencontres les entrepreneurs, est-ce qu'il y a quand même une petite partie feeling avec l'entrepreneur ?
Bah, tous les points que je te cite au niveau de l'équipe, c'est de toute manière des points sur lesquels on se fait une conviction en un quart d'heure de temps avec les entrepreneurs qu'on a en face de nous. Et on leur pose des questions simples, comment ils se sont rencontrés avec leurs cofondateurs, pourquoi ils ont décidé de faire ça, qu'est-ce qu'ils ont découvert sur le chemin, comment est-ce qu'ils voient leur passé avec les erreurs, avec ce qu'ils ont appris, comment est-ce qu'ils voient le futur, qu'est-ce qui est important pour eux, quels sont les challenges qu'ils ont en face d'eux. Et en fait, avec des quelques questions simples, ça arrive rapidement à déterminer les traits de caractère des entrepreneurs. Et après, c'est assez difficile parce que on se fait beaucoup de convictions sur énormément d'incertitudes en sachant qu'une partie des deals qui vont très bien marcher sont ceux qui n'ont pas été acceptés par le consensus. Donc, c'est de la folie de ce métier-là. Et en plus, la moitié des boîtes pour lesquelles on va dire oui, on va avoir tort. Donc,
est-ce qu'il n'y a pas une petite partie d'aléatoire, justement
L'aléa se gomme à mesure que tu gagnes en expérience. En revanche, ce que tu ne changeras jamais, c'est tes billets connectifs à un instant T. Est-ce que tu es de bonne humeur ? Est-ce que le mec s'est levé de bon pied ? Est-ce qu'aujourd'hui il pitche bien ou est-ce qu'il pitche mal ? Est-ce que il est sur un marché sur lequel il y a beaucoup de monde et donc tu es beaucoup plus exigeant sur le marché ? Ou est-ce que tu es sur un marché où il n'y a pas beaucoup de monde donc tu es moins exigeant sur la capacité de ce fondateur ? Nous, notre job chez Kima, c'est de donner sa chance à une centaine d'entrepreneurs par an et on finance pas le succès, on finance le progrès, on finance les entrepreneurs qui veulent progresser, qui peut-être se recycleront plus tard dans les boîtes du portefeuille ou dans la deuxième boîte qu'ils vont créer, mais on cherche pas des licornes ou des décacornes absolues, on cherche juste à financer le tissu entrepreneurial français des meilleurs entrepreneurs tech. Et donc, cette partie d'entrepreneur qui est sur une... c'est un peu difficile ce que je vais dire, mais qui sont pas de la catégorie singulière, exceptionnelle, qui sont des exceptions, et ben elle est hyper difficile à palper parce qu'en fait, on est plein dans cette, dans cette zone du milieu. Quoi.
Ok. Maintenant, on va pouvoir parler de ton livre, Human Machine, Machine Humaine en français.
Yes.
Première question, c'est pourquoi avoir écrit un livre ?
Pourquoi avoir écrit un livre ? Donc, y a deux éléments. Je pense que le premier, c'est un peu comme lorsque j'ai décidé d'aller bosser le samedi à la Société Générale. Les exercices de résilience et de rigueur, c'est des choses que j'essaie de faire de temps en temps pour essayer de vaincre ce défaut atroce que j'ai d'être parfois inconsistant ou pas assez rigoureux. Donc voilà, on combat tous ces démons comme on peut. La deuxième raison, c'est parce que j'avais fait un workshop sur l'organisation chez The Family en 2016-2017. Que j'ai refait ce workshop à plusieurs occasions et que malheureusement, j'avais trouvé que le déroulé de ce workshop n'était pas qualitatif et il y avait beaucoup de notions et de concepts qui me trottaient dans la tête et il fallait que je les couche sur le papier, donc sous forme de présentation ou de post. Et je me suis dit que j'allais en faire un bouquin. Et donc, j'ai écrit ce bouquin pour cette raison-là. Donc, c'est très égoïste. Hein, mais et d'ailleurs, j'ai failli pas le sortir parce que du coup, une fois que je l'avais écrit, bon ben, j'avais fait ce que j'avais à faire, ce que j'avais besoin de sortir, et en fait j'avais peur de me livrer au regard des autres, quoi, tu vois.
Ce qui arrive souvent d'ailleurs.
Ouais, bah c'est difficile, c'est, tu vois, c'est... parce que dans tout à un moment donné, t'as des.
Dès que tu sors quelque chose au grand public, c'est
tu sais, les haters sont beaucoup plus brillants que les autres, quoi.
Oui, c'est vrai.
Et ça, c'est assez, je t'avoue, c'est assez désagréable au début, puis après on s'en détache. Je pense que c'est un bon exercice de lâcher prise aussi.
Ok.
Mais donc c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin-là, c'était pour sortir ces idées de la tête et réaliser un projet qui exigeait un peu de rigueur jusqu'au bout.
Okay.
Et c'était pas facile.
Et au niveau de ton processus créatif, justement, quel a été ton processus de création pour ce bouquin ? Tu parles dans ton livre que la première ébauche date de novembre 2017.
Ouais.
Et que t'as pas mal galéré, notamment le fait de, au final, tu l'as écrit en anglais, je crois, dans un premier temps.
Je me suis cassé le pied en octobre 2017 en squash, le sport des connards. que je fais plus et donc à ce moment-là, comme j'étais immobilisé, je passais beaucoup plus de temps derrière mes emails qu'en rendez-vous, que je concentrais sur des zones, sur des plages horaires très fixes, avec beaucoup moins de souplesse qu'aujourd'hui, et donc j'avais un peu plus de temps devant mon PC, donc je me donnais des slots d'une heure, deux heures pour pouvoir écrire. J'ai commencé à écrire le bouquin en français et j'ai pas essayé de réfléchir, j'ai couché sur le papier des mots. Et puis en décembre, avec les fêtes, avec le fait que je pouvais commencer à être un peu plus mobile, et ben en fait, j'ai perdu l'habitude d'écrire, j'ai arrêté d'écrire. Et en avril-mai, au moment des vacances de Pâques, j'ai profité du fait que ma famille était absente pendant une période pour me dire « Ok, je pars aux États-Unis, 4-5 semaines comme je fais tous les ans, mais au lieu de gérer mes journées comme d'habitude, c'est-à-dire bah, tu fais tes rendez-vous pendant la journée et tu te remets au rythme américain », en fait, je me levais à 5h, je faisais mes emails jusqu'à 7, 8, enfin 5h30, mes emails jusqu'à 7h30, 8h. Ensuite, j'écrivais jusqu'à 14h, je faisais mes rendez-vous l'après-midi, je refaisais des emails le soir et j'allais me coucher. Donc, je faisais deux journées en une et tout ça non-stop pendant 4-5 semaines. Et là, je me suis rendu compte que j'avais, en lisant ma première ébauche en français, que c'était nul. Du coup, je l'ai jeté à la poubelle. J'ai recommencé page blanche pendant 3 jours. Et puis en fait, je me suis rendu compte que tous mes posts depuis le début, depuis 2014, je les écrivais en anglais. Donc je me suis remis à écrire le bouquin en anglais. Et je l'ai terminé en 4 semaines, cette première version anglaise. Après, il a fallu que je la fasse relire par quelqu'un.
Oui.
Et puis après, il a fallu qu'on traduise le bouquin en français et puis qu'on le réadapte parce que la traduction n'était pas propre à mon style. Mmh. Et en fait, ces petits efforts à réaliser pour terminer le bouquin sont assez difficiles à mener parce que moi, sur ma to-do list, en priorité, j'ai rencontré des entrepreneurs, discuté des sujets liés aux startups et à l'investissement, d'autres choses. Et le bouquin, il venait toujours plus bas dans la liste. Donc, il a fallu que je me force un petit peu. Et j'ai été aidé par un mec qui s'appelle David Stutt, que je sais depuis quelques temps, qui lui bosse avec une maison d'édition qui s'appelle Storylab, qui permet d'être quasi indépendant et donc qui m'a mis la gouache pour me pousser à terminer, quoi.
Okay.
Donc c'est grâce à lui que j'ai terminé le bouquin.
Et t'as pas sorti ce bouquin en anglais, pourquoi?
Il sort dans 5-6 semaines en anglais. Je viens de recevoir la première mouture corrigée de... Parce qu'en fait, j'ai écrit la version en anglaise, on l'a refait en français, on l'a réadapté, on l'a refait en anglais, en reprenant la première trame du début. Donc, c'est un petit peu complexe. Okay. On est en train de le relire, il va sortir dans, je sais pas, 5-6 semaines.
Donc, la version anglaise, c'est un peu la version originale, en fait, de ton livre.
Ouais, je pense. Je pense que c'est la version originale. Mais les deux, enfin, j'espère que les deux se valent.
Sont similaires.
Ouais.
Ok. Avec le même nom, du coup, ouais, c'est ça.
Ouais, encore plus facile. La Human Machine en anglais, on pourra pas, on pourra pas m'y reprendre.
Ok. Donc, dans ton livre, il y a deux grandes parties. Donc, comprendre et agir.
Yes.
Dans la partie comprendre, tu te poses pas mal de questions, notamment comment s'accepter, se connaître soi-même. Donc, moi, je pense que c'est deux questions existentielles, hein, clairement. Comment t'as fait, toi, pour justement te comprendre et t'accepter, on va dire. C'est une question extrêmement vague, mais...
Ce qui est sûr, c'est que se comprendre et s'accepter, c'est un processus qui doit être explicite et voulu et volontaire. Donc à un moment donné, il faut que... C'est dingue parce que parmi les critiques sur le bouquin, j'avais des gens qui disent « Ouais, il n'est pas allé assez en profondeur sur cette partie-là. » Ou alors ce truc... Enfin, bref, donc j'ai plein de critiques. Mais en fait, l'objet de cette partie, de se comprendre soi-même, c'est d'inviter les gens à se comprendre. Moi, je suis pas psy, je suis pas là pour donner
c'est clair.
Pour écrire une encyclopédie sur comment se comprendre soi-même. Mais ça passe nécessairement par rattacher les faits marquants de notre enfance et de notre passé, qui sont souvent des déterminants de notre caractère actuel. Et en fait, en comprenant d'où on vient et qui on est bien plus à même d'agir sur ce qu'on réalise et ce qu'on fait au quotidien, etc. Et donc, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça a commencé. Je pense que j'ai été beaucoup soucieux du regard des autres et spécialement des gens que j'aime et qui sont autour de moi. Et que ce besoin-là fait qu'on se pose toujours la question de est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bien ? Est-ce qu'ils vont apprécier ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Et donc, en fait, quand on se pose ces questions-là, à un moment donné, on en vient à se poser des questions sur soi, quoi. Et plus on se pose des questions sur soi, plus on cherche la vérité. La vérité, elle se trouve nécessairement dans des faits marquants du passé. Et donc, on finit par y arriver. Puis moi, quand mes parents divorçaient, je vais voir un psy. Donc, quand tu vas voir un psy, tu fais aussi cet exercice-là. Et je pense qu'au fur et à mesure, ça s'est délié un peu naturellement. Ouais, j'ai eu du bol que ça se délie naturellement tout seul. Mais moi, j'invite tous les étudiants et tous les gens que je vois qui cherchent dans leur vie professionnelle à se reposer la question de, en gros, c'est quoi leur ADN, quoi ? Parce que tu ne peux pas avancer si tu ne sais pas qui t'es toi-même.
C'est clair. Et la deuxième partie, agir. Du coup, tu parles pas mal du fait de maîtriser le temps, quoi, son temps. Moi, j'ai 23 ans. C'est la chose qui me rend le plus anxieux aujourd'hui, c'est le temps, comment gérer son temps, parce que les années passent super vite. Enfin, ouais,
t'as rien vu, mon vieux.
C'est un enfer.
Ouais.
Et qu'est-ce que tu conseilles justement à un jeune comme moi qui se pose beaucoup de questions sur son avenir et sur justement comment optimiser, entre guillemets, son temps et sa vie, quoi.
Tu peux pas tout optimiser d'un coup. Tu peux pas optimiser le temps et les actions, quoi. Donc l'idéal qu'on a optimisé quand on a ton âge, c'est les actions, c'est pas le temps. Tu vas trouver quelque chose que tu fais bien et que t'aimes faire, et à mesure que tu le fais, tu vas t'organiser pour que ton temps soit mis à profit le mieux possible pour t'aider à progresser là-dedans. Et en fait, on fait souvent cette erreur de commencer à bosser sur ses routines, etc. Alors que d'abord, il faut trouver quelque chose qui nous passionne, dans lequel on se sent bien et tout. Donc, il faut prendre le temps de chercher. Et le problème, c'est que les gens ne prennent pas le temps de chercher parce qu'ils ont l'impression de le perdre. Sauf que le temps de chercher, quand on est jeune, il est essentiel, quoi. Et tu verras que plus le temps passe, plus il devient une commodité dans ton esprit, quelque chose d'assez automatique, naturel. Et en fait, plus il passe vite parce que tu le vois de moins en moins passer. Donc c'est assez tu vois, c'est assez flippant, quoi. Moi je me pose la question du jour où j'aurai j'espère 80 ans et je m'en rendrai compte, et je sais que c'est demain, tu vois.
Ouais.
Et c'est assez dingue, ça,
qu'aujourd'hui t'es pas encore serein vis-à-vis de ça, en fait.
Si j'ai acquis la sérénité que de toute manière le temps dans cette vie allait passer et s'arrêter beaucoup plus vite que je n'aurais le temps de m'en rendre compte. Donc il ne faut pas que je m'inquiète là-dessus, et il faut que je profite de chaque instant pour faire des choses qui ont des impacts long terme positifs et qui, dans le court terme, n'ont pas d'impact négatif ou sont pas en train de ou que je sois pas en train de tronquer mon bonheur ou le plaisir de la vie. Parce que tu as des gens qui vont se réveiller tard dans leur vie et qui vont se rendre compte qu'ils ont tellement bossé comme des chiens toute leur vie qu'il y a des choses qu'ils auraient aimé faire différemment. Et à l'inverse, tu as des gens qui ont été tellement probablement... comment est-ce qu'on dit gens qui profitent beaucoup de la vie. J'ai perdu le terme. Mais ceux qui en ont profité tellement qu'à un moment donné, ils regrettent des quelques efforts qu'ils auraient dû faire qui leur auraient permis de trouver un meilleur équilibre. Donc pour moi, tout est dans l'équilibre, en sachant que c'est toujours un équilibre qui est à la fois temporaire et imparfait. Mais voilà, quoi. Je sais que le temps va s'arrêter beaucoup plus vite que je vais m'en rendre compte, quoi.
Et c'est pas très grave. Et dans ton bouquin, tu parles aussi d'apprécier le présent et de pas trop penser au passé ni au futur. Et vraiment de...
La méditation sert à ça, hein. Mais l'instant présent, c'est quelque... En fait, les gens passent beaucoup de temps à se rassurer par les éléments du passé qui les confortent.
Et à se projeter.
Et à se projeter dans ce qui pourrait peut-être un jour devenir. C'est le meilleur moyen de perdre le présent, quoi. Le passé est un souvenir, c'est réconfortant, c'est génial, il faut construire ses souvenirs et son passé de tout ça, mais c'est des éléments réconfortants, c'est un peu une espèce de socle de mousse que tu crées autour de toi, c'est cool. Et le futur, c'est un champ des possibles, mais le champ des possibles, il faut le réaliser, hein. Le réaliser, c'est maintenant, c'est dans le présent. Alors on n'a pas toujours la liberté, c'est pas toujours facile, parfois on est face à des contraintes et on peut rien y faire, mais pour autant c'est le présent qui compte, hein. Ça, c'est essentiel, ouais.
Qu'est-ce que tu retiens de l'écriture de ce bouquin ? Est-ce que ça te donne envie d'écrire d'autres livres avec ton emploi du temps ultra chargé ?
Écrire d'autres livres, pour l'instant, non.
Mais
plus tard, c'est sûr. J'aime écrire, recoucher les idées. En fait, tout ce que j'apprends dans mon métier, j'aime l'écrire parce que ça me permet de structurer mes idées. C'est pour ça que j'écris beaucoup. Hein. Enfin, beaucoup. J'ai fait un peu plus de 200 posts depuis 5 ans. Voilà, ouais. Donc, ça donne un peu une fréquence. Et là, aujourd'hui, ce que j'essaie de faire à tout prix, c'est dans les posts que j'écris, de mieux les structurer. Parce que dans le passé, ce que je faisais, c'est que je commençais à écrire, j'allais au bout de mon article, je le publiais, et je n'étais pas très rigoureux sur la forme tant qu'il m'avait permis de structurer mes idées. Et donc maintenant, j'essaie de faire un effort là-dessus. Donc, je vais déjà commencer par faire un effort sur la manière dont je structure mes idées, dont j'écris mes posts. Et peut-être que quand j'aurai pris cette habitude d'écrire de manière plus rigoureuse, je me relancerai dans un bouquin, quoi.
Okay.
Mais j'ai pas mal à faire déjà.
C'est sûr. Maintenant, catégorie un peu tips. As-tu des outils, applications à conseiller pour optimiser la productivité ? Et quels sont ceux que tu utilises quotidiennement ?
Alors d'abord, je suis plutôt fervent d'utiliser moins d'applications que plus. Et sur mon téléphone, je ne sais pas combien j'en ai, mais en gros, mon home screen, j'ai aujourd'hui 4, 8, 12, 16 applications.
Okay.
Alors qu'il y a la place pour 24, je crois.
Ouais.
Peut-être plus.
Ouais, c'est un bon ratio.
Donc, j'en ai pas beaucoup. Je suis assez fervent de choses assez simples, quoi. Donc, pour les emails, j'utilise Superhuman, mais les gens peuvent utiliser Gmail, c'est pareil. J'utilise Google Keep pour prendre des notes ou faire des to-do. J'utilise Pocket pour sauvegarder les textes que je vais lire plus tard dans la semaine ou dans 15 jours. J'ai désactivé Slack sur mon téléphone. J'ai désactivé les notifs de toutes les applications. Sur WhatsApp, les 3/4 de mes conversations sont en mute. Donc, je vois les notifications, enfin le badge s'allumer, mais ça s'arrête là. Je ne réponds jamais au téléphone à moins que le coup de fil ait été prévu. Du coup, je suis tout le temps en do not disturb sur mon téléphone. C'est l'espèce de petite lune là, sur laquelle tu appuies.
Tu peux prendre que deux appels, c'est ça ? Celui de Xavier Niel et...
Moi, j'ai que ma femme et Xavier en favori. Et c'est les deux qui savent que quand ils m'envoient un texto ou ils m'appellent, je réponds.
Okay.
Sauf si vraiment, je n'ai pas mon téléphone autour de moi, mais normalement, c'est le cas. Quoi d'autre comme application ?
Et des outils de...
J'ai supprimé Facebook.
Okay.
Sur Instagram, je me suis limité à 50 personnes que je suis et qui me suivent. Je garde Twitter. Je garde LinkedIn juste pour poster et accepter les connexions, mais je ne m'y connecte pas. Et quoi d'autre comme application?
En termes d'outils, tu en parles un peu dans ton bouquin de yoga et de entraînement du cerveau aussi.
Ouais, mais là, alors pour le cerveau, donc j'utilise Jour,
ouais.
Qui est une bonne note portefeuille. Et aussi, sur mon home screen, j'ai Dice, okay. Pour oui. Trouver des sorties. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et puis après, j'ai Zenly, évidemment. Oui. j'ai Storm qui permet de faire des live audio, une espèce de radio libre,
okay,
sur lequel je vais commencer à faire de la radio libre ici, là, je sais pas, cette semaine ou la semaine prochaine, on va voir.
Avec
on va
ton
faire
smartphone un test. Directement.
Exactement.
C'est beau.
Snap, parce que ça déchire. Et puis Jumbo aussi pour gérer tes paramètres de vie privée sur Google, Facebook, Twitter, etc.
Ok. C'est un bon petit panel déjà.
Ouais. Et après. Les outils ne sont pas importants, c'est la manière dont on les utilise et le process qu'on a qui est important.
Ok. Et donc, on va passer à la dernière partie du podcast. Des questions assez simples. Quels sont les trois derniers livres que tu as lus?
Les trois derniers livres que j'ai lus. Attends, je les ai sur le Kindle. J'ai lu Play Bigger,
ouais.
Qui est ouf, qui est sur tout ce qui est catégorie. Création, ouais. Toutes les boîtes qui créent en fait des boîtes. Alors, j'ai en lecture que j'ai pas lu encore, qu'il faut que je lise, Atomic Habits,
ouais.
D'un mec qui s'appelle James Clear. Le mec, il a un nom incroyable quand même. et il a un site qui est assez cool. J'ai lu Who is Michael Ovitz, qui était le fondateur d'une agence hollywoodienne pour les acteurs, les films, etc.
Ok.
Et alors, c'est marrant parce que c'est. Ce bouquin, les gens. Enfin, j'ai beaucoup de gens qui m'en ont parlé en me disant ah, c'est génial et tout. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu romancé et que le mec doit être sacrément insupportable.
Ok.
Voilà, donc ça m'a saoulé. That Will Never Work, sur l'histoire de Netflix. Pas mal, sans plus. Sans plus. C'est une.
Beaucoup de storytelling.
Ouais, beaucoup de. En fait, c'est plus comment dire, l'un des deux cofondateurs qui est Paris Dastin qui raconte les débuts de Netflix. C'est intéressant, quoi. Après, c'est pas sympa ce que je devrais dire et je crois vraiment qu'on pourrait dire la même chose sur les Mad Machines. Tu peux en faire une fiche de lecture avec quelques pages, tu le files à quelqu'un et c'est sympa. Ou alors, il pourrait te raconter ça dans un podcast en une demi-heure, une heure et ça ferait l'affaire. Donc, tu sens que. Mais d'ailleurs, c'est marrant, hein. Tu sens que l'auteur a fait ce travail pour lui-même. Et voilà, il faut l'accepter comme tel. Mais c'est bon, c'est sympa, quoi. C'est l'histoire de Netflix, donc c'est toujours cool, quoi.
Ok.
What You Do Is Who You Are, de Ben Horowitz. Bon, ça, hyper solide. Et puis, bref, j'en ai des tonnes. Bref, donc ça, c'est les derniers que j'ai lus.
Tu lis majoritairement sur Kindle, du coup?
Ouais, beaucoup Kindle. Ouais,
plus pratique.
Pour tourner les pages, en lecture rapide, c'est beaucoup plus pratique que le papier. Le papier, ça crée de la friction sur ton exercice de lecture rapide, alors que avec Kindle, tu peux passer les paragraphes et avancer dans ta lecture beaucoup plus vite.
Okay.
Sur certains passages de bouquins, c'est essentiel.
Okay.
D'ailleurs, une règle, c'est si tu commences un bouquin et que tu ne l'aimes pas, ne le termine pas, c'est pas grave.
Oui, bah oui,
c'est ou sûr. Alors, avance-le rapidement. Quoi. Mm. Mais les gens ont pris l'habitude de lire de la même manière qu'ils ont pris l'habitude de terminer leur plat au restaurant. Il faut arrêter.
Ouais, non, c'est clair, juste par obligation, en mode il faut que je le termine. En fait, pas du tout.
Non, surtout pas.
Et quels sont les trois derniers films que tu as vus?
Alors, j'ai commencé Messiah sur Netflix.
Ouais.
Juste le premier épisode. Voilà, j'ai commencé The Irishman.
Oui.
Ça fait troisième fois que je commence.
Que tu retentes.
que je retente. Je sais pas, j'en sais plus où j'en suis, mais bon, j'y arrive pas. Et après, il y a deux trucs. J'ai deux types de séries que je regarde souvent. Et les gens se demandent de genre, c'est bizarre.
Ouais, dis-moi.
Le premier, c'est Columbo.
Ok.
J'adore Columbo. ça me détend, j'aime bien et tout. C'est vraiment cool.
Très bien.
Et le deuxième, c'est Deadliest Catch. C'est des mecs qui pêchent des crabes dans la mer de Bering. Il y a 15 saisons. quand je suis tout seul à la maison, que ma famille parle, qu'ils sont en vacances, je ne sais pas quoi, et que je bosse, je mets ça en fond, je fais mes emails. J'adore.
Ok.
Voilà. c'est plaisir. Complètement aberrant, mais voilà. Et la dernière série que j'ai vue, mais j'ai rien vu de dingue là récemment.
Ouais.
Non. Si, après, il y avait donc Once Upon a Time in Hollywood, moi que j'ai trouvé top.
Brad Pitt.
Ouais. Et il y en a un autre récemment qui est sorti, dont je ne me souviens pas, comme quoi, ça ne m'a pas beaucoup marqué.
Ok.
Voilà.
Et du coup, cite-moi trois personnes qui t'inspirent le plus et pourquoi.
Bah, je vais sortir des clichés.
je veux pas de clichés. Hein, je...
mais non, mais sinon, c'est juste que les deux premiers que je vais te citer, c'est mes deux en favoris de mon téléphone, donc Xavier et ma femme. Ma femme, parce qu'en fait, c'est elle la vraie machine. Ouais. Et Xavier, parce que ça restera toujours un mystère, la manière dont il arrive à gérer autant de choses à la minute. Ouais. Voilà. Et tout en gardant, je trouve, une balance de vie qui est, tu vois, assez bien gérée, c'est assez cool. Non, les gens qui m'inspirent. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est qu'à chaque fois que je rencontre un entrepreneur extraordinaire, il m'inspire à sa façon. Récemment, le fonds Hunter d'Impala, une boîte qu'on a financée au UK, m'inspire énormément. Alexandre Lebrun chez Nabla m'inspire beaucoup. Moi, je n'ai pas de... Il n'y a pas une, deux, trois personnes en particulier.
Oui, bah oui,
moi, je suis inspiré par beaucoup de monde. Il y a des gens qui m'ont marqué, qui ont été importants dans ma vie, qui ont été structurants. Ma mère a été importante dans plein de moments. Mon beau-père, par la manière, par lui, sa rigueur et sa structure, c'est un modèle, tu vois. Mon père, pour sa légèreté, tu vois, et tu vas avoir plein de trucs comme ça, tu vois. Pascal Mercier, qui est mon premier mentor, et puis Xavier pour d'autres choses. Et en fait, voilà, il faut se créer un catalogue riche, tournant. Je pense qu'il faut faire attention aux obsessions, tu vois, notamment les obsessions des gens. Et il y avait ce super article récent de Paul Graham sur les gens qui vous aiment et les gens qui vous détestent, lovers and haters.
Ouais.
Et de parler des lovers and haters en mode, quel que soit ce que tu dis, les lovers aimeront toujours ce que tu dis, trouveront toujours une raison de donner raison. Et les haters, l'exact inverse. Et en fait, ces deux catégories ne sont de toute manière pas très bonnes pour ton développement, parce que ça manque un chouïa de sens critique à la fois honnête et positif. Quoi. Donc,
mais après, voilà. À partir du moment où tu as des haters, c'est bon signe quand même. Ça veut dire que tu es suivi.
Ouais, non, je sais pas, tu vois, je trouve par exemple que Xavier a réussi, malgré son image publique, à garder au contraire, tu vois,
une bonne image,
très très bonne image. Ouais.
Ah, c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il est
non, tu vas voir qui tu vas voir, le mec qui est pas content de son réseau free, il va gueuler quoi. Il va pas gueuler contre Xavier vraiment, non. Il va gueuler que
il va appeler le SAV et puis
ouais. Et je suis sûr que je suis sûr que ce mec là, tu lui présentes Xavier, il rachète un abonnement dans la foulée quoi. Donc tu vois, donc Xavier, malgré le fait, tu vois, c'est un dirigeant d'entreprise, t'arrives pas par là par hasard, et donc il faut que tu fasses des choix et que parfois tu dises des choses qui plaisent pas à tout le monde. C'est quelqu'un que les gens aiment, tu vois. Tu vois chez les employés, la culture chez Free, elle est hallucinante. C'est probablement un modèle pour plein de boîtes, quoi.
Okay.
Alors c'est dangereux, hein, parce que ça veut dire aussi que c'est le magnétisme lié à son leader, mais pour autant c'est remarquable.
Ok.
Voilà.
Et dernière question, as-tu des entrepreneurs à me conseiller pour des prochains podcasts?
Les entrepreneurs à te conseiller, bah, je pense que Jean-Charles, Samuel Yanche et Alan, lui, tu vois, est quelqu'un de très inspirant. Ouais. Notamment parce qu'à chaque fois qu'il est fait face à une problématique, il va essayer de s'en faire une image juste et claire, et non pas de se rattacher uniquement à ce qu'on lui a dit qui était juste ou clair. Tu vois. Donc ça, j'aime bien. C'est une manière d'aborder les problèmes et les sujets qui est... à la fois pragmatique, rationnel, singulière et tout. C'est bien. Un autre mec dont on n'entend jamais parler, parce qu'en fait, il est peu présent dans les médias, mais à chaque fois que je le vois, tu vois, moi, je le vois grandir, ça fait longtemps maintenant, donc 4 ans, c'est Firmin Zocchetto chez Payfit.
Oui.
Un mec avec qui j'ai changé la semaine dernière, que j'aime beaucoup aussi, c'est Nicolas Bustamante chez Doctrine.
Oui.
Voilà. Je connais trois comme ça, parce que c'est trois auxquels j'ai réfléchi récemment. Mais en fait, il y en aurait des... En fait, c'est injuste, parce qu'il y en a des dizaines. Il y en a plein qui méritent qu'on les écoute. En fait, ce qui est important, ce n'est pas la personne que tu as en face de toi, c'est le sujet avec lequel tu l'abordes. Ouais.
C'est l'histoire. Ok, très bien. Merci Jean pour cet échange. Et puis à bientôt
sur
l'entrepreneur. Ciao.
Bye.